qu'est-ce t'as fait, où t'étais, c'est qui? Quand, qui, quoi, comment, quand, qui, ça? Que tu dis, non mais que tu dis. Ah d'accord, c'est ça, quoi, comment? Où est-ce que c'est, quand, c'est chez qui? Si t'y vas, j'y vais, quoi, pourquoi? T'y vas pas, j'y vais pas, tu dis. Quoi, t'attacher quoi? Moi, jaloux, t'es folle, moi, jaloux. Moi, jaloux, t'es folle, moi, jaloux. Mais non, je rigole.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2. Je suis toujours avec Jules et Karine de l'association Constellation qui contribue à faire vivre une communauté poly-A et à tisser des liens autour des relations plurielles à Toulouse et dans ses environs. Alors c'est le troisième épisode, aujourd'hui on va aborder le thème de la jalousie.
C'est quand tu vas où, tu mets quoi? Et jusqu'où tu sors, on voit tout. Comment, quoi, depuis quand, c'est qui? Bon, ah bon, non mais oui, mais non. Quand, d'où est-ce que tu connais qui? Par qui, depuis quand, comment, hein? D'avec qui tu reviens, par où? Je ne veux pas le savoir, mais c'est qui? Quoi? Moi, jaloux, t'es folle, moi, jaloux. Moi, jaloux, t'es folle, moi, jaloux, mais non.
Vous avez dit bonjour tout à l'heure?
Non, on n'a pas dit bonjour.
Ah ouais,
on n'a pas dit bonjour. Tu veux qu'on fasse un petit message?
Ouais, un petit bonjour.
Bonjour.
Ouais, tu nous as lancé, on n'a pas dit bonjour, on est parti directement.
Ouais, cash, quoi. Radical.
Bonjour Germain.
Bonjour Germain.
Bonjour Karine.
Bonjour Jules.
Bonjour.
On est encore revenu à la radio.
Et aujourd'hui, on va vous parler de la jalousie.
Aïe, ça pique.
Ce grand mot qui fait un peu peur.
La jalousie est souvent romantisée. On nous apprend très tôt qu'aimer, ce serait vouloir être l'unique, surveiller, comparer, retenir. Dans les récits amoureux dominants, la jalousie est même parfois présentée comme une preuve d'intensité du lien. Et pourtant, cette banalisation n'est pas neutre. Elle participe à un continuum où le contrôle, la possession et certaines violences deviennent acceptables au nom de l'amour. Mais la jalousie, c'est aussi une construction sociale, nourrie par la pression à la monogamie, les rapports de pouvoir, le genre, les insécurités affectives et les injonctions à être choisis, irremplaçables. Derrière la jalousie, il y a souvent des peurs très profondes, la peur de l'abandon, du rejet, de ne pas être assez, de perdre sa place, son statut ou sa sécurité. Le problème n'est pas de ressentir de la jalousie, le problème commence quand cette peur devient un droit de contrôle sur l'autre, quand elle justifie la surveillance, les interdits, l'isolement ou la violence. Dans cette émission, on va essayer de regarder la jalousie face à ce qu'elle raconte de nos attachements, de nos blessures, des normes amoureuses dans lesquelles on a grandi, mais aussi des possibilités de construire des relations plus honnêtes, plus conscientes et moins basées sur la possession.
Je sais des choses que tu ne sais pas que je sais. Tu n'imagines même pas tout ce que je peux savoir. Ni même tout ce que je peux comprendre. Alors, qu'est-ce t'as fait, où t'étais, c'est qui? Quand, qui, quoi, comment, quand, qui, ça? Que tu dis, non mais que tu dis. Ah d'accord, c'est ça, quoi, comment? Où est-ce que c'est, quand, c'est chez qui? Si t'y vas, j'y vais, quoi, pourquoi? T'y vas pas, j'y vais pas, tu dis. Quoi, t'attacher quoi? Moi jaloux, t'es folle, moi jaloux. Moi jaloux, t'es folle, moi jaloux. Mais non, moi jaloux, t'es folle, moi jaloux. Moi jaloux, t'es folle, moi jaloux. Mais non, je rigole.
Je pense que le plus simple, peut-être, ce serait de donner une définition de la jalousie.
Bah, tout à fait, on peut commencer par la définition du Larousse. C'est donc la jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Si on cherche une définition un peu plus large, on peut dire que la jalousie, c'est une émotion secondaire qui mêle des pensées, des sentiments d'insécurité, de peur, d'anxiété concernant la perte, anticipée ou pas, d'un statut, d'un objet, d'un lien affectif ayant une forte valeur personnelle. La jalousie, c'est donc un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration, le dégoût.
Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est d'aller voir la construction sociale de la jalousie, ouais. puisque dans cette émission, on aime bien aller parler plus largement des sujets. Et la jalousie, dans notre construction sociale, c'est souvent vu comme une preuve d'amour. C'est également une émotion ou un sentiment qui est à la fois bien vu parce que ça prouve qu'on aime l'autre, et en même temps, c'est une émotion qu'on ne veut pas ressentir. C'est vraiment quelque chose où il ne faut pas ressentir de la jalousie. Et moi, je le place un peu sur un continuum de violence entre, on va dire, un début de jalousie assez léger qui est souhaitable et bien perçu, mais qui justifie aussi les violences jusqu'au féminicide, qui sont motivées par la jalousie. On parle de crimes passionnels dans les médias, etc.
Le dossier que nous allons ouvrir ce soir est un dossier plein de sang et plein de larmes. C'est en effet le crime passionnel que nous allons évoquer ce soir.
Des crimes associés à la passion du couple. Une dimension passionnelle retirée du code pénal dès 1975. Mais les mots des journalistes pour décrire ces crimes avaient du mal à évoluer. Exemple en 1993.
Sylvie Imbert avait 26 ans. Il y a quelques jours, elle a été tuée de 2 balles dans la tête par son mari avec lequel elle était en instance de divorce. Il pourrait s'agir d'un crime passionnel comme on en voit plusieurs dans l'année.
Et si on s'intéresse d'un point de vue du genre, selon le genre de la personne qui exprime de la jalousie, c'est pareil, c'est pas connoté de la même manière. Des hommes un peu jaloux, ça peut être assez bien vu. Une femme jalouse, on va vite passer sur le registre de l'hystérie. Et donc là, à nouveau, la société, en tout cas, ne nous met pas sur un pied d'égalité concernant la jalousie.
Est-ce qu'on peut être poli-A et profondément jaloux?
Bah oui. Déjà parce que c'est une émotion et que les émotions, on est humain, donc on les ressent. Il faut aussi débunker ce truc que les personnes polyamoureuses, heureuses en polyamour, ne ressentent jamais de jalousie. Ce sont des personnes, c'est pas des robots. On n'a pas atteint le saint graal du polyamour parce qu'on ne ressent plus jamais de jalousie. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Et comme toute émotion, on ne peut pas s'empêcher de la ressentir.
Donc en fait, les personnes qui sont en relation plurielle, elles ont pas, c'est pas qu'elles ne ressentent pas de jalousie, c'est qu'elles ont déconstruit les croyances autour de la jalousie, notamment cette question de c'est insupportable et si je la vis, c'est qu'il y a un problème. En fait, c'est plutôt repenser à quoi sert la jalousie et quelle information elle vient nous donner. Et ça, on le dit depuis le début de ces émissions, c'est les émotions viennent nous apporter des informations, la jalousie vient nous apporter des informations. Et voilà, et les personnes en relation plurielle, il y a beaucoup cette croyance de si la personne ressent de la jalousie, c'est parce qu'elle n'a pas déconstruit la mononormativité ou qu'elle est dans une logique de possession de l'autre. Il y a plein de relations dans lesquelles si une personne exprime de la jalousie, l'autre va venir la décrédibiliser, la délégitimiser, notamment les personnes qui commencent dans les relations plurielles. Et quand, par exemple, on a créé le violentomètre, ça fait partie de la première phrase dans le vers, c'est « la jalousie peut être exprimée ». Et donc, voilà, moi, je pense que c'est important qu'on casse un peu ces croyances autour de la jalousie.
C'est la complexité du modèle qui veut ça. C'est-à-dire, il y a à la fois un concept je pense un peu idyllique, d'aimer en liberté, de partager, hein, d'aimer plusieurs sans possessivité, avec le consentement et la transparence, ça c'est le concept du modèle. Et du coup, la complexité, c'est de faire fi de la jalousie, ou de la rivalité, ou des problèmes d'estime de soi, quand celui, souvent pour les couples socles, c'est ça, parce que très souvent les polyamoureux, pas tous, mais il y a des couples socles, qui ouvre à d'autres relations. Les personnes sont confrontées justement à ces histoires de jalousie sans le vouloir, en ayant envie de se dépasser, de se surpasser. Des fois, elles y arrivent et des fois, elles n'y arrivent pas, en fait. Et y a souvent, je prends sur moi. Parfois, ça marche. Il y en a qui arrivent à... Voilà, c'est pas non plus... Tout le monde n'est pas égal là-dessus. Hein. Et au contraire, à trouver ça plus intéressant... Plus riche parce que quelque part, comme une relation est toujours insatisfaisante et imparfaite et donc frustrante par essence, surtout sur la durée, donc s'offrir le modèle du polyamour, C'est l'idée que ça pourrait mieux réussir.
Et après, dans cette émission, on va parler d'attachement insécure. Et il y a une autre chose autour de l'attachement qu'il faut débunker, c'est que les personnes avec un attachement insécure ne peuvent pas être dans les relations plurielles. Et c'est assez faux, en fait. Il y a des écrits sur l'attachement insécure et les relations plurielles. Et c'est pas parce qu'on a un attachement insécure, anxieux, etc., donc qui est le terrain favorable à la jalousie, qu'on peut pas être dans des relations plurielles. En fait, c'est des choses qui se travaillent et qui évoluent.
Et dans des relations plurielles heureuses.
Heureuses, tout à fait. En fait, la jalousie dans la communauté polyamoureuse, c'est un sujet qui a été très travaillé, il y a eu beaucoup d'écritures. Il y a Marie-Claude Larcher, notamment, qui, sur son blog, avait créé quelque chose qui s'appelle la jalousie vue comme une pieuvre à huit pattes. Et un peu sur les réseaux, on voit cette métaphore de la pieuvre qui réapparaît. Et donc, on a un peu envie de donner quels sont les différents visages de la jalousie. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait un webinaire de Alain Héril sur les 7 blessures de l'abandon. Et ça collait très fortement. Donc Alain Héril, c'est un sexologue psychanalyste. Ça collait vraiment avec cette vision-là, je pense qu'on peut l'utiliser. Et donc il y a censé avoir 8 déclencheurs de la jalousie. Moi j'en ai listé 9 aujourd'hui, parce que je suis chiant. Et on va les décliner au fur et à mesure. Le premier visage de la jalousie, c'est le besoin d'être choisi et ou unique. On va voir que c'est pas exactement la même chose, mais ça va dans le même item. Et donc ça va être quand on se pose la question de qu'est-ce qui me rend spécial aux yeux de l'autre. Avec derrière, parfois, cette idée de « c'est pas que j'ai peur d'être aimé moins, mais j'ai peur d'être aimé de la même manière qu'une autre personne ». Et donc, il y a une question de symbolique derrière, la symbolique de l'être élu, qui est en fait une symbolique qui nous vient de la monogamie, de « on choisit une personne et ça va être l'élu, et donc la manière d'aimer cette personne va être spéciale, unique ». Et donc, quand il y a de l'amour pour plusieurs personnes, c'est qu'est-ce qui, moi, fait que je suis aimée d'une manière différente de l'autre. Et là encore, c'est un curseur parce qu'en fait, on peut pas. Chaque lien est spécial en soi, mais des fois, c'est difficile de comprendre en quoi le lien que j'ai avec une personne est plus spécial par rapport à un autre. Et vous voyez, j'ai failli dire plus spécial, et là, on rentre tout de suite dans les subtilités, c'est les plus ou moins. Et donc, la question de hiérarchie. Il y a beaucoup de personnes qui se disent je veux être plus spécial. Et en fait, on peut essayer de voir plutôt sur une échelle plus horizontale. Et dire qu'il y a des choses qui sont spéciales dans notre lien, et c'est pas plus ou moins, c'est différent de ce que je vis avec une autre personne. Et comme ça, on sort d'une hiérarchie pour entrer dans une diversité. Pour répondre à ce besoin d'être unique, on peut par exemple faire appel à Bell Hooks, et qui voit l'amour comme une action, et pas comme un sentiment. Quelle action je mets en place pour faire ressentir à l'autre de l'amour? Et donc, quelles actions dans ce duo particulier entretiennent l'amour. Et en fait, ça peut être de plein de manières différentes en fonction des partenaires. Les langages de l'amour, par exemple, montrent qu'il y a plein de manières d'être dans le lien, et ça va pas être le même en fonction des partenaires.
Love is a combination of care, knowledge, responsibility, commitment and trust. Because one of the things that's happened in our culture is we equate love primarily with care. And that's why we can say parents who brutally beat their kids but who still love them. Because I look at my own childhood and I say in the book again and again, my parents cared for me deeply. But they also wounded me in ways that were violating, wounded my spirit. And I think that I would be a different person today had they not given me care. Because I've met lots of adults who didn't get care, but I did not feel loved.
Quelle différence vous faites entre je veux être choisi et je veux être unique?
On peut vouloir être choisi 100% sans pour autant vouloir être unique et spécial et un peu hors du lot par rapport aux autres personnes avec qui nos partenaires sont en relation. Mais on va avoir besoin de ressentir que l'autre, que c'est nous, parce que c'est nous, qu'on n'est pas interchangeable avec les autres. Sans pour autant être sur cette échelle de valeur qui est quand même assez facile à ressentir. Et là aussi, pareil, comme tu disais, Bell Hooks en parle. Pour elle, l'amour, c'est une action, c'est un choix que l'on fait au quotidien de placer l'autre comme étant une priorité, quelque chose d'important dans notre vie. Et si la personne en face nous le fait ressentir, c'est aussi un moyen de comprendre qu'on est important, qu'on est choisi et que c'est nous et pas juste parce qu'on est là en fait. C'est nous en particulier.
deuxième visage de la jalousie, qui est un thème récurrent dans tous les liens et pas du tout spécifique aux relations plurielles. Mais c'est la peur de perdre le lien, la peur de l'abandon. Et donc ça va s'activer particulièrement lorsque on va avoir peur que le partenaire, la partenaire, parte avec une autre personne. Et en fait, ça peut être activé parce que c'est réel, parce qu'en fait, ça existe. Des gens qui sont en relation plurielle et qui attendent juste de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc cette peur-là, elle va être omniprésente, ça va créer de l'insécurité et il n'y a pas trop de moyens de s'en sortir. Et parfois, ça va être juste une blessure du passé, on va revenir dessus, qui va être réactivée parce que l'hypervigilance de « j'ai été abandonnée dans ma vie à des moments et donc je suis en perpétuelle recherche de signaux qui me feraient croire que je pourrais être abandonnée de nouveau, quand bien même l'autre personne est très rassurante ».
Alors c'est vrai que la peur de l'abandon, ça peut être aussi des constructions liées à l'enfance, pas obligatoirement à un sentiment amoureux. Et pourtant, donc, ça a des incidences sur le passé et maintenant.
En fait, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un trauma pour avoir une blessure d'abandon. De toute façon, l'enfant, à partir du moment où il va s'émanciper de l'adulte, des figures d'attachement, va vivre des blessures de l'abandon. Donc ça fait partie de notre construction, c'est là, ça peut être bien vécu ou mal vécu. Mais dans tous les cas, à peu près tout le monde traverse à un moment dans son développement, dans la petite enfance, une mise à distance du lien parental. Donc c'est toujours quelque part présent, et si il y a en plus de la maltraitance, des violences intrafamiliales, de la négligence, les traumas liés à la négligence, en fait, on entend de plus en plus parler, ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. Ça va conditionner notre manière d'aimer. Parce que la manière dont on a été aimé, la manière dont on a vu comment a été vécu l'amour dans notre famille, va construire nos relations futures. Donc ça fait écho. Alors, les relations plurielles viennent toujours mettre la loupe sur ces difficultés-là, mais en fait, ça va être vécu aussi dans les relations mono. Ça fait partie vraiment du lien, de manière générale.
Ça va être vécu aussi en amitié. On peut tout à fait retrouver ça dans d'autres aspects que nos relations romantico-sexuelles.
Un attachement dit sécure, il se construit dans de la cohérence, de la communication, de la responsabilité émotionnelle partagée et la capacité de réparation du lien. Il se construit dans l'enfance, mais il n'est pas figé. Un système d'attachement, il est évolutif. Quand bien même on a un attachement insécure lié à l'enfance, si on arrive à construire des relations sécures adultes, en fait, notre système d'attachement va se modifier. On peut se sentir tout à fait en sécurité adulte alors qu'on a vécu des maltraitances dans l'enfance. Et c'est là où c'est intéressant dans les relations plurielles, c'est que notre système d'attachement peut être activé dans certaines relations. Donc insécure dans certaines relations et sécure dans d'autres. En fonction de comment la personne se comporte. Est-ce que la personne, la partenaire va venir activer des choses? Il y aura toujours un moment où ça va s'activer quelque part. Mais est-ce qu'il y a la capacité de communication, de réparation? Et en fait, plus on va construire des cadres sécures, et plus on va se sentir en sécurité. Et en fait, on peut avoir 15 ans, 20 ans de non-exclusivité qui se passe bien, et être activé à un moment dans une autre relation parce qu'il y aura un comportement qui va nous faire penser à quelque chose d'antérieur. Donc ça c'est intéressant, il y a quand même le bouquin de Jessica Fern qui est vraiment spécifique, qui s'appelle Polysécure, qui est vraiment spécifique de l'attachement et donc du coup qui montre bien comment c'est imbriqué entre le passé, le présent et les différentes relations. Et on peut faire aussi un petit parallèle sur comment différencier l'amour et l'attachement. Parce qu'il y a des personnes qui disent, comme Boris Cyrulnik, l'attachement c'est l'amour. Et on peut, dans d'autres façons de penser, différencier l'amour et l'attachement. Et donc l'attachement, il est tourné vers soi. L'amour, il est plutôt tourné vers l'autre. Les relations, c'est un mélange des deux. Il n'y a pas de l'amour pur et de l'attachement pur. L'amour, c'est vraiment, j'ai envie que l'autre s'épanouisse, soit heureux, etc. L'attachement, c'est, je veux me sentir bien avec l'autre. Je t'aime parce que j'aime ce que tu fais vivre en moi. Et si on veut être dans plus d'amour et moins d'attachement, c'est ramener la sécurité à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que quand notre sécurité ne dépend plus uniquement de l'autre, eh ben on peut être plus dans l'amour et moins dans l'attachement.
On peut passer à un troisième point qui est la peur du changement de la nature du lien. Donc là, ça on retouche encore à la symbolique du statut de la relation. C'est est-ce que si mon ou ma partenaire a un nouveau ou une nouvelle partenaire, est-ce qu'on est toujours un couple? Est-ce que notre duo existe toujours en tant que couple? Ou est-ce que si tu commences cinq nouvelles autres relations, parce que tu as énormément de temps, ma place, elle devient quoi dans ta vie? Notre relation, elle devient quoi si tu as aussi autant de temps à donner et d'énergie à donner à d'autres personnes? Et là, c'est pareil, on revient sur la symbolique et qu'est-ce qui fait que notre relation, elle est importante? Et si elle évolue, est-ce qu'elle a toujours de la valeur? Et est-ce que je compte toujours pour toi?
Ça peut se jouer aussi, par exemple, dans les questions de parentalité. Moi, ce que j'ai déjà pu entendre, c'est est-ce qu'on n'est plus que des coparents? Est-ce qu'on est des colocs pour les couples de longue date qui vivent ensemble? Et il y a peut-être plus la flamme et la passion du départ, mais les gens, ils se disent, bon, bah, est-ce qu'on est que des colocs? Et dans ce cas-là, si on va voir ailleurs, on est quoi? Et en fait, cette question de définition va venir activer une peur de, voilà, symboliquement, on représente quoi? Et comme on n'a pas non plus 1000 modèles, eh ben, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Cette incertitude par rapport au statut et à la symbolique de la relation. Quatrième visage de la jalousie, ça va être tout ce qui est besoin de contrôle, et encore une fois, pas dans le fait de contrôler l'autre de manière très négative, mais plutôt le besoin de contrôle sur son environnement. Je l'ai déjà expliqué dans l'émission, c'est qu'on a besoin d'avoir un peu de contrôle. Le sentiment d'impuissance, il est très difficile à vivre, et donc du coup, quand il n'y a pas de prévisibilité, pas de clarté, et qu'on ne sait pas trop où on va, ben, on va avoir ce besoin de contrôle qui va s'activer avec la question de la tolérance à l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont assez à l'aise dans le fait de ne pas savoir trop et d'être du coup plutôt dans l'accueil de l'évolution, et d'autres personnes qui vont avoir vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, d'avoir le maximum de données pour que ce besoin de contrôle soit satisfait. Par exemple, ben voilà, j'ai besoin de savoir comment tu te projettes avec cette partenaire dans un an, pour savoir si aujourd'hui je m'engage avec toi. Par exemple, pour des personnes qui ont des troubles anxieux généralisés, la tolérance à l'incertitude, elle est très très faible. Et puis il y a d'autres personnes, par leur vécu, qui sont très stables, et pour qui c'est pas un problème. Et donc on peut se demander un peu où est la frontière entre demander de la réassurance et ben, contrôler l'autre. Et en fait, si on voit qu'on rentre dans une dynamique de contrôle, réussir à nouveau avec cette notion d'honnêteté radicale envers soi-même, c'est à se dire, ok, pourquoi j'ai besoin de contrôler la situation? Qu'est-ce qui m'insécurise? Et donc venir un peu là, voir quels sont les déclencheurs. Et si, de fait, on analyse la situation, on voit qu'il y a une situation d'impuissance totale, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai pas la main dessus, voire il y a des choses qui se décident sans moi, là, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut corriger le tir.
On va continuer avec la peur du rejet. Et donc ça va être, si tu vois quelqu'un d'autre, j'ai peur d'être comparée, de me sentir trop quelque chose, pas assez. Est-ce que si tu couches avec telle autre personne, tu vas me trouver moins désirable? Est-ce que je vais moins compter pour toi? Est-ce que tu vas me trouver moins bien sur tel plan ou tel autre? Et ça, c'est quelque chose auquel on est déjà confronté dans notre vie de tous les jours, même hors relation romantico-sexuelle et hors relation polyamoureuse. On est dans la comparaison assez facilement dans notre société. On est toujours à savoir, est-ce qu'on est mieux qu'un tel ou qu'une telle? Est-ce qu'on est plus ci? Est-ce qu'on est moins ça? Est-ce qu'on n'est pas trop? Et là, en fait, ça va être des choses qui vont venir s'activer aussi au sein de nos relations et qui peuvent mettre de la jalousie au sein de nos duos.
Un autre cas de figure, par exemple, c'est par rapport aux homosexualités et les duos avec des personnes homosexuelles et bisexuelles. Il va y avoir la question du genre, parfois. Par exemple, s'il y a un couple de lesbiennes et dont une personne souhaite avoir des relations sexuelles avec des hommes, il va y avoir cette peur du rejet. Est-ce que tu vas me rejeter en lien avec notre sexualité? Et c'est des choses qui peuvent être très difficiles à vivre. Sixième visage de la jalousie, ça peut être la peur de la solitude. Et il y a des personnes qui vivent très très mal le fait de se retrouver seules, pour qui ça va être des montées d'angoisse pas possibles, et donc qui vont, pareil, instaurer des règles coercitives. Ça peut être « je supporte pas de passer deux nuits sans toi parce que, en fait, me retrouver seule face à moi-même, c'est insupportable ». On va se sentir jaloux, mais la réelle peur derrière, et des fois c'est pas facile de la débusquer, ça va être qu'en fait je ne supporte pas d'être seule. Et donc, c'est encore autre chose.
C'est là où il faut apprendre aussi, peut-être, à défusionner légèrement.
Et voilà, oui, c'est ça. Derrière, souvent, il y a une logique de défusion, de
codépendance. Il y a des personnes qui ont ce besoin de fusion énorme et qui vont être très, très en insécurité dès que cette fusion descend un tout petit peu. L'axe suivant, c'est lié à son estime. C'est avoir peur de perdre de la valeur aux yeux de l'autre et envers soi-même, en fait. Et notre propre valeur, la voir descendre par rapport à nous-mêmes. Enfin, notre regard sur nous-mêmes va descendre notre propre valeur.
On en a pas mal parlé, je pense, dans les émissions précédentes. C'est quand notre valeur propre est indexée sur le regard de l'autre. Et donc, du coup, le fait de ressentir de la jalousie dans une situation plurielle, parce que si on n'a pas notre sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, mais que notre sécurité, elle est basée sur le regard extérieur, la pluralité va venir activer ce levier-là. Enfin, moi, je trouve que c'est un des plus difficiles à travailler, parce que ramener de la valeur à l'intérieur de soi, c'est pas simple. Le huitième visage de la jalousie, ça peut être le besoin de justice, ou la peur d'être floué dans la relation. Notamment pour des personnes qui donnent énormément, qui s'investissent très très fort, donc qui attendent de la réciprocité, ce qui est tout à fait entendable, mais pour qui ce besoin de justice, c'est-à-dire je veux récupérer l'investissement, et donc voilà, ça va activer plutôt des sentiments de colère, enfin une émotion de colère. La justice, du coup, c'est plutôt un besoin, et l'émotion qui va être activée, ça va être de la colère ou de la tristesse. Ouais.
Un investissement symbolique, c'est un investissement émotionnel
Un peu tout ça, ça va dépendre des personnes. Ça peut être, en fait, regarde, moi je suis une grande place pour toi dans ma vie, mais toi t'as 5-6 autres partenaires, on arrive difficilement à se voir, je trouve pas ça juste parce que moi je te laisse plein de place, je suis disponible quand tu veux. Et toi, t'es jamais disponible pour moi, ou faut s'organiser 3 semaines à l'avance pour essayer de passer 2 heures ensemble. En fait, ça va être cet écart de ce que moi j'offre ou ce que j'aimerais que tu m'offres et ce que tu m'offres réellement. Et ce sentiment qu'on donne pas autant l'un l'autre, ou que par rapport à d'autres partenaires, on reçoit moins aussi. Ça peut être un gros truc sur la gestion du temps, de l'énergie, de la disponibilité les uns pour les autres.
On s'imagine qu'on a le contrôle souvent sur nous, sur... Alors, parfois, on peut avoir un peu de contrôle. Je pense qu'il y a une part biologique qui est beaucoup plus puissante qu'on veut bien le croire, en fait, dans ces histoires de jalousie. On a un cerveau du mammifère limbique et reptilien. Et on est hyper organisé autour de ce cerveau de la survie, en fait. Et vu nos blessures d'enfant, parce qu'on est des petits humains qui sommes autonomes très tardivement, on se tape au moins 9-10 ans avant de pouvoir, et encore je suis gentille, avant d'accéder un peu à l'autonomie. Ben, on se tape des troubles de l'attachement, en veux-tu, en voilà. La jalousie, en fait, c'est en lien direct avec la zone d'insécurité. On a tous envie, à un moment donné, de s'attacher à une personne particulière, privilégiée, unique et spéciale pour nous, et à qui on serait unique et spéciale pour lui ou pour elle, parce que ça crée une espèce d'espace de sécurité, peut-être illusoire, mais quand même, et ça répare aussi les manquements de l'enfance, et voilà. Donc, il y a quand même un désir de s'unir avec une personne privilégiée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples socles qui partent dans le polyamour en disant, bon, OK, on va éviter les écueils de l'amour normal, traditionnel, en ouvrant notre couple. Mais c'est faire fi de cette zone d'insécurité qui grimpe avec la jalousie quand notre partenaire préféré commence à s'amouracher et à vivre une passion à côté, quoi. Dans ce modèle, c'est équilibré, c'est-à-dire toi, tu peux t'offrir un amoureux transi, mais moi aussi, je peux aussi le faire. Et ça devrait créer l'équilibre, normalement. Il ne devrait pas y avoir de manque, de sentiment de manque, puisque il y a plus d'amour, donc moins de manque. Normalement, c'est vu comme ça.
Le 9e visage de la jalousie, je l'ai mis en 9, parce que du coup, on dépasse les 8 théoriques. C'est vraiment la peur de perdre l'autre comme possession. Et là, c'est plutôt dans une vision assez particulière des relations plurielles, où voilà, le fait d'avoir quelque part des droits sur l'autre, quelque part... Quand une personne est jalouse, on va tout de suite penser à ce truc-là. Ah oui, mais c'est parce que tu veux me posséder, machin. En fait, c'est rarement ce point-là uniquement. Et c'est souvent des choses plus subtiles. Mais ça existe quand même. Voilà, il y a des personnes qui considèrent que l'autre leur appartient d'une certaine manière et qui vont pas supporter que l'autre prenne son autonomie, en fait. Oui.
Partage d'autres avec d'autres aussi.
Voilà.
Et comme vous avez pu le voir, en fait, ces 8-9 points, ils sont vraiment très interconnectés. Souvent, ils se répondent les uns aux autres. Comme tu disais tout à l'heure, les uns vont pas sans les autres. Souvent, ils vont par 2 ou 3 et ils se croisent.
Ouais. En fait, c'est souvent plusieurs leviers qui sont activés. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre exactement quand je ressens cet mélange d'émotions de jalousie, on va dire aller trouver les déclencheurs, aller comprendre exactement c'est quoi qui active. Est-ce que c'est lié à une situation réelle ou fantasmée ? Et donc pouvoir faire des choix et agir. Si on n'a pas compris l'origine de l'émotion et l'information qu'elle vient porter, on va peut-être taper à côté. Et donc, pour pouvoir, dans une relation, vraiment comprendre quels sont les vrais enjeux, eh ben voilà, il va falloir questionner sur l'ensemble de ces points. Et je trouve que c'est un bon apport d'avoir dans la littérature détaillé ces différents visages de la jalousie, parce que sinon, on est un peu floué, on a une émotion et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et donc tout ça, quand on va être dans cet état émotionnel qui est activé et très fort, ça va nous amener à faire des choix qui vont être guidés plutôt par la peur, donc où on va plutôt avoir tendance à vouloir imposer à l'autre, on va parfois faire des choses qui sont coercitives. Si on comprend les déclencheurs, déjà qu'on accueille cette jalousie, donc c'est ce qu'on disait dès le départ, on accueille, c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'avoir besoin d'être assuré, mais après voilà, ce qui est intéressant c'est de savoir quelle est la responsabilité de chacun chacune. Et il y a une responsabilité dans le duo et une responsabilité personnelle de travailler sur la blessure, notamment quand cette peur, elle ne vient pas de la situation présente, mais de blessures du passé. Et bien sûr, ça ne justifie pas la violence.
Jalousie, jalousie. Nuance avec parano. De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.
Quelle est seule, quelle est seule.